Mais tout d'abord, bonsoir à tous. Je viens de vous dire que je suis particulièrement heureux de participer à cette table ronde et surtout que j'ai à côté de moi ce qu'ont été les principaux artisans du combat contre l'état d'urgence qui, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, prendra fin le 2 novembre prochain. Pardon d'avance si mon propos est un peu redondant et parfois déstructuré, mais je n'ai pas assisté aux différentes interventions de ce matin et par conséquent, je retracerai un peu rapidement les principales difficultés juridiques qui se posent, et notamment probatoires, dans le cadre de l'état d'urgence. Je ne sais pas si des intervenants ont longuement discuté de la question des notes blanches, mais peut-être que vous allez me dire oui ou non, si par quelques mouvements de tête un peu discrets. Très bien. Oui, non, bon. Il y a visiblement une division. Alors, le titre de l'intervention que j'ai choisi, c'est l'état d'urgence et l'émergence d'un droit de la preuve dérogatoire, parce que finalement, ce qu'il y a au cœur de l'état d'urgence, c'est le renseignement. Toutes les mesures qui sont prises, que ce soit assignation à résidence et perquisition administrative, ont un unique fondement, et ce fondement, c'est celui de l'information que dispose et dont dispose l'administration. Et on s'est rendu compte, dans le cadre de l'état d'urgence, que ce renseignement prenait une forme assez concrète, qui était celle d'une note blanche. Pour figurer, de façon là aussi matérielle des choses, c'est que on notifie au requérant une mesure de perquisition administrative, d'assignation, qui contient un certain nombre d'affirmations, qui sont bien souvent des affirmations péremptoires. Souvent, ça débute par « cette personne appartient à la mouvance islamiste radicale », et puis, en fonction des dossiers, si le requérant a plus ou moins de chance, eh bien, il a d'autres faits qui sont plus ou moins précis. Ce qui veut dire que pour l'avocat, c'est le premier matériau qui lui est soumis. Premier matériau, c'est la décision administrative, donc notifiée soit par le préfet, soit par le ministère de l'Intérieur, avec des affirmations qui y sont contenues. Et on ne notifie bien évidemment pas, au moment de la mesure, de quelconques éléments extrinsèques qui viendraient au soutien de l'argumentation que contient l'acte administratif qui est querelleux. Ce qui veut dire que lorsque vous introduisez le contentieux et lorsque vous introduisez la requête, finalement, vous discutez d'affirmations péremptoires sur lesquelles vous disposez assez peu d'éléments. Toute la difficulté pour l'avocat, déjà, de préparer sa défense face à des éléments dont il ignore la précision. Et puis, à partir du moment où vous introduisez la requête, vous avez un mémoire en défense du ministère de l'Intérieur, et ce mémoire en défense est 95% des cas assortis et accompagnés d'un document qui est la note blanche. La note blanche, qu'est-ce que c'est ? C'est un document qui pourrait ressembler à celui-ci, non pas sujet de mon intervention, mais celui-ci parce que c'est un document Word dans lequel vous allez retrouver en tête soit la notion confidentielle, soit le nom de la personne. Vous n'avez ni service, de préciser, administratif, ni date, ni encore moins auteur. Donc, ce qui veut dire que on doit contester un document dont on ignore absolument la source, l'origine. Et j'aurais tendance à vous dire que finalement c'est un document qui rentre dans une catégorie juridique qui est bien connue, ce serait celle des objets juridiques non identifiés. La note blanche est un OJNI. C'est un OJNI parce que on ne sait pas d'où elle sort, et au-delà même du fait que on ne sait absolument rien de son origine, on ne sait pas plus quel est son régime juridique. Parce que finalement, c'est une note qui contient des informations personnelles, et chacun ici sait que les informations personnelles répondent à des règles précises qui sont notamment déterminées par les lois sur la liberté d'information, parce qu'il peut y avoir des informations attentatoires à la vie privée, et manifestement, c'est un fichier informatisé. Donc qui dit fichier informatisé dit notamment règles qui sont imposées, qui sont vérifiées par la CNIL. Donc ça, c'est le premier temps. Et puis, toujours au titre de cette petite introduction, il faut quand même peut-être tordre le cou à une idée reçue, à une idée qu'on a pu voir émerger dans le cadre de l'état d'urgence, qui serait celle de se dire que cette note blanche est un OJNI inédit. Alors, il se trouve que ce n'est pas le cas, puisqu'on n'a pas vu la note blanche, la note de renseignement, apparaître dans le cadre spécifique de l'état d'urgence. Les notes blanches ont apparu façon assez tôt, enfin tôt, tout dépend après si on juge dans l'absolu ou de façon relative dans le contentieux administratif, mais en tout cas elles existaient dès 2004, dès 2005, et j'ai notamment cette décision du Conseil d'État qui avait été rendue en section du 4 octobre 2004, ministre de l'Intérieur contre M. Bouziane. M. Bouziane, qui était un imam auquel on reprochait son appartenance à une mouvance radicale et son salafisme, et qui était accessoirement polygame, parce que de mémoire, je crois qu'il avait peut-être pas loin de 16 épouses. Et donc, le Conseil d'État, dans cette décision de 2004, donc, dans laquelle l'administration avait déjà produit des notes blanches, avait jugé de la sorte: si l'administration peut se fonder sur des notes blanches des renseignements généraux pour motiver une décision de police, donc décision de police, on est bien là aussi dans le cadre de l'état d'urgence, à l'encontre d'un étranger ou plus généralement un autre tout justiciable, encore faut-il qu'elle mette l'intéressé et le juge en mesure d'en apprécier la valeur, conformément au principe du contradictoire. La menace pour l'ordre public étant par elle-même une notion imprécise, il paraît d'autant plus nécessaire d'encadrer son emploi par l'administration. Ce qui veut dire que dès 2004, vous avez cette reconnaissance du caractère imprécis de la menace à l'ordre public. Et qui dit caractère imprécis dit à qui profite le caractère imprécis. Et on pourrait se dire que, en application de principes fondamentaux qui seraient notamment tirés de la procédure pénale et de la présomption d'innocence, eh bien ce caractère imprécis bénéficierait au requérant. Parce que, évidemment, on dirait, à partir du moment où il apporte un certain nombre d'affirmations et au-delà d'affirmations où il conteste de façon vigoureuse le contenu de la note blanche, eh bien il appartiendrait à l'administration de produire des éléments extrinsèques qui viendraient corroborer la note blanche. Ce qu'on a vu dans le cadre de l'état d'urgence, qu'on suit pour ce qui est de notre cabinet depuis les premières mesures qui ont été prises en novembre 2015, c'est que bien souvent tel n'est pas le cas et que la force du contentieux, il y a manifestement un déséquilibre. Et ce déséquilibre profite de façon systématique à l'administration. Et pourtant, la faute pour différentes organisations d'avoir un peu tiré la sonnette d'alarme. Vous avez notamment la CNCDH dans un avis du 26 février 2016, numéro 48, qui dit « Une note blanche ne peut être considérée comme probante qu'autant qu'elle est suffisamment circonstanciée et précise, soumise au débat contradictoire, sans être sérieusement contestée et confortée par des éléments complémentaires extrinsèques. » Et certainement que la CNCDH, dans son avis, qui exigeait des éléments complémentaires extrinsèques, avait une position juste. Une position juste parce que, objectivement, c'est sûr que l'administration peut être dans une difficulté de rapporter la preuve d'une menace à l'ordre public, surtout lorsqu'elle n'est pas du ressort du judiciaire. Pour autant, il ne faut pas que le justiciable se retrouve privé de la possibilité de contester cette mesure, et la seule possibilité qu'il en a, c'est d'avoir des précisions sur ce qu'on lui reproche et des précisions qui doivent notamment être adossées, nous avait dit la CNCDH, à des éléments extrinsèques. Ce qui veut dire que, par rapport, on a pu entendre cette expression de nouveau droit pénal dans le cadre de l'état d'urgence, mais le droit pénal, ça répond à un principe qui est un principe fondamental, qui est celui que la preuve incombe au procureur de la République ou à la victime lorsqu'elle s'est constituée partie civile par voie d'action. Donc ça, c'est un principe fondamental en matière de droit pénal, c'est que la preuve appartient aux autorités poursuivantes. Et que, de façon assez extraordinaire dans le cadre de l'état d'urgence, la personne est en demande. Elle est en demande. Donc ce qui veut dire que c'est pas le ministère de l'Intérieur qui va prendre la parole en premier, comme ça devrait pourtant peut-être être le cas dans le cas des audiences, mais c'est bien le demandeur et c'est le ministère de l'Intérieur qui sera en défense. Donc déjà, vous avez une sorte d'inversion des rôles, et au-delà de cette inversion des rôles, vous avez l'érection d'une certaine présomption de culpabilité, alors qui n'est pas forcément une présomption de culpabilité, mais en tout cas une présomption souvent de radicalisation qui va peser contre les personnes. Et là encore, pour faire le parallèle avec le droit pénal, les présomptions de culpabilité, et je parle sous le contrôle évidemment d'un magistrat qui se trouve à ma droite, les présomptions de culpabilité en matière pénale sont extrêmement rares. Elles existent, mais elles sont extrêmement rares. Elles touchent notamment à la non-justification des ressources ou, par exemple, en matière de délit routier, lorsque la personne est suspectée, ou du moins il y a une présomption qui pèse sur elle, puisqu'elle est titulaire, par exemple, de la carte grise. Et donc, on voit que dans une matière aussi cardinale que l'état d'urgence, avec des mesures qui sont manifestement contraignantes et coercitives, eh bien, vous avez le renversement d'un principe, qui est celui de la présomption d'innocence, avec une nécessité pour la personne d'apporter les éléments de preuve. De temps de mon intervention, et évidemment j'essaierai d'être succinct pour pouvoir respecter mon temps de parole, de façon assez générale, un premier temps que je vous propose, la place des notes blanches dans le contentieux administratif, et deuxième temps, la place dans le contentieux judiciaire. Ici, une petite introduction à cette première partie sur la place des notes blanches dans le contentieux administratif. Finalement, l'importance des notes blanches doit être confrontée et mise en rapport avec la nature de la mesure administrative. J'entends par là que si vous avez suivi le contentieux de l'état d'urgence, et notamment dès le début des avocats qui ont considéré, dont nous faisons partie, qui ont considéré qu'on pouvait estimer que les mesures prises, que ce soit celles d'assignation à résidence ou de perquisition, étaient des mesures attentatoires aux libertés individuelles, et que par conséquent, elles étaient opérées en violation de l'article 66 de la Constitution, qui vous dit que le juge naturel des libertés, c'est le juge judiciaire et non pas le juge administratif. Dans une décision 2015-527 du 22 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a dit, tant par leur objet que par leur portée, ces dispositions, donc celles qui sont relatives aux assignations à résidence, ne comportent pas de privation de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution. Ce qui veut dire que, selon nous, ça emporte deux séries de conséquences. La première série de conséquences est cette conséquence purement organique, dans la mesure où le contentieux va relever du juge administratif et pas du juge judiciaire. Mais la deuxième série de conséquences, c'est aussi que finalement, on va être moins regardant en termes probatoires que si on intervenait dans un cadre purement judiciaire. Puisque, en cas d'une mesure de police administrative décidée par l'administration et qui est du ressort du tribunal administratif. Trois exemples du contenu qu'on a pu voir d'une note blanche pour ceux qui n'ont pas suivi ou n'ont pas suivi avec suffisamment de précision ou d'intérêt, sont approfondis le contentieux de l'état d'urgence. Avec William Bourdon, on a notamment été à l'origine de la première suspension d'une mesure d'assignation à résidence devant le Conseil d'État. Et ça concernait une affaire qui a été largement médiatisée, qui était celle d'Alim Abdelmalek. Je peux le dire puisque son nom est public et je ne viole pas la moindre confidentialité. On lui reprochait trois choses. Et là, toujours au soutien d'une note blanche. La première chose, c'est que on lui reprochait d'avoir fait des repérages à proximité du domicile d'un des responsables de Charlie Hebdo. Deuxième temps, on lui reprochait, ce qui était déjà un peu plus grave, d'être impliqué dans une affaire de recel de véhicules et de véhicules volés qui aurait servi au financement de cellules terroristes au Yémen. Et puis, troisième temps, mais ça c'est un peu l'espèce d'argument refrain, plus généralement, son appartenance à la mouvance radicale. Et alors là, et puisque l'exposé se doit aussi d'être pratique, vous avez déjà, en tant qu'avocat, une première difficulté, puisque vous êtes face à une personne qui est assignée à résidence. Donc, pour préparer les défenses d'une personne assignée à résidence, c'est assez compliqué. Soit vous demandez un sauf-conduit au ministère de l'Intérieur, mais dans un premier temps et dans les premiers mois de l'état d'urgence, c'était particulièrement difficile de les obtenir. Soit vous faites une défense à domicile. Et la défense à domicile, bon, les avocats s'y prêtent assez rarement pour des raisons qu'on peut aisément comprendre. Et c'est pour ça que dès le début de l'état d'urgence, vous savez, lorsque vous regardez un peu l'assignation à résidence et que on vous a alimenté, la presse nous a alimenté de cette menace du djihadiste, du barbu qui viendrait s'infiltrer, vous dites, mais finalement, non, si c'est vrai, ça donne peut-être pas très envie de le défendre. Et puis, bon, après tout, en termes de sécurité nationale, peut-être mieux pour tout le monde que cette personne soit assignée à résidence l'espace de quelques mois. Et puis, vous commencez votre travail de limier, vous commencez votre travail, qui n'est même plus celui finalement d'un avocat, mais qui est celui d'un détective privé, où vous reprenez une à une les affirmations qui sont contenues dans la note blanche. La première mouvance islamiste radicale, je l'ai dit, c'est une affirmation péremptoire, donc malheureusement, le seul moyen, c'est de se battre avec nous-mêmes des affirmations péremptoires. Deuxième argument, qui était pas forcément extrêmement fort, c'était celui de la participation à des faits de recel de véhicules qui auraient servi au financement d'une cellule terroriste. Et là, en fait, on se rend compte, en grattant un peu le dossier, que si il est bien question de cette procédure, en réalité, c'est parce qu'il a été entendu comme témoin parce qu'il avait acheté un véhicule. À aucun moment n'a été mis en cause, à aucun moment, encore moins mis en examen, et encore moins condamné. Mais dans le cadre de la procédure, il avait été entendu comme témoin, et il aurait évidemment pu en être victime. Et puis, premier temps, qui est celui de cette prise de photographie à proximité d'un des responsables, enfin, domicile d'un des responsables de Charlie Hebdo, c'est que sa mère habitait à deux pas, qu'en réalité, il attendait que sa mère sorte de son domicile pour partir, et qu'il se trouvait à une rue qui était effectivement en face de ce domicile, mais ça, il l'ignorait complètement. Et alors là, c'est là où ça devient un peu surréaliste, parce que on produit ensemble d'éléments de preuve, on produit à la fois les attestations, certificats de domicile, et puis le plan Google Earth pour montrer au magistrat, mais voyez, en fait, cette fameuse adresse, ça correspond aussi au domicile de la mère. Et puis, vous avez le magistrat de première instance qui vous regarde et qui vous dit « Oui, mais maître, c'est quand même contenu dans une note blanche. Est-ce que vous dites que le ministère de l'Intérieur est en train de mentir ? C'est ça que vous dites ? Est-ce que l'administration ment alors même qu'elle nous protège tous ?» Et là, il y a un peu une déstabilisation. Une déstabilisation parce que vous apportez un ensemble d'éléments probatoires qui démontrent que la présence de l'intéressé était justifiée et qu'elle n'avait strictement rien à voir avec le domicile de Charlie Hebdo, et pourtant, le juge administratif ne vous entend que peu. Et c'est aussi une des autres problématiques de l'état d'urgence, c'est cette sorte de loterie administrative, parce que vous allez tomber parfois sur des magistrats qui seront extrêmement pointilleux et qui vont regarder l'entier dossier, et d'autres qui vont partir du principe qu'il y a une présomption de véracité des éléments qui sont affirmés par le ministère de l'Intérieur et qui viennent quasiment sacraliser cette note blanche. Devant le Conseil d'État, c'est une autre musique. Une autre musique parce que, alors, ça tient peut-être à des raisons organiques, là encore, puisque c'est peut-être une juridiction qui est plus indépendante que ne sont les magistrats administratifs qui répondent eux-mêmes à leur propre logique, qui peut être une logique carriériste, c'est un fait objectif. Autre musique, parce que magistrat du Conseil d'État, pour le coup, lorsque on vient et qu'on produit devant lui une note blanche, au magistrat qu'il est, ça le convainc moyennement. Ça le convainc d'autant moins lorsque, dans le dossier, on produit un ensemble d'éléments qui démontrent les raisons pour lesquelles l'argumentation ne tient pas. Et donc, l'administration est poussée dans ses retranchements. Elle est tellement poussée dans ses retranchements que, par exemple, sur le deuxième argument, qui était celui de la participation à une mouvance radicale, une mouvance terroriste, et à l'ouverture d'une information judiciaire, lorsqu'on lui dit « mais finalement, c'est étrange parce que il a pas été mis en cause, il n'a pas été mis en examen, il n'a pas été condamné, donc c'est assez curieux ». Et le ministère intérieur vous répond, enfin, de façon droit dans les yeux, « mais maître, vous savez que parfois, pour des raisons qui tiennent au bon déroulement de l'enquête et pour des raisons qui tiennent à l'opportunité des poursuites, eh bien, nous agissons de façon un peu dissimulée et nous ne révélons pas tous nos éléments et nous ne mettons pas toujours en examen les éléments. » Alors déjà, elle devenait la bouche du magistrat instructeur, ce qui est toujours un peu gênant lorsqu'on parle de séparation des pouvoirs, et au-delà même qu'elle devenait la bouche, c'est-à-dire qu'elle remettait en cause l'édifice même de la justice antiterroriste, et justice antiterroriste qui non seulement emporte une compétence spécialisée des juridictions parisiennes, et qui au-delà, on l'a vu avec notamment l'infraction d'association de malfaiteurs, si aujourd'hui vous avez véritablement des éléments qui vous permettraient de considérer que cette personne serait effectivement en lien avec une mouvance systémique radicale, je peux vous garantir que on a bien vu qu'on n'avait pas besoin forcément d'une grosse matérialité pour la mettre en examen pour AMT, elle l'aurait déjà été. Et donc le ministère intérieur est poussé dans ses retranchements, le juge du Conseil d'État décide d'organiser une deuxième audience parce qu'il en veut plus. Il dit « apportez-moi la preuve que votre, enfin, apportez-moi la preuve que M. Abdelmalek, en parlant au ministère intérieur, alors là, pour le coup, il a bien administré la preuve, si on veut dire, apportez-moi la preuve qu'il était à proximité de ce domicile pour prendre des photographies de ce domicile, et non pas pour une autre raison. Et alors là, le ministère de l'Intérieur déglutit un peu. On voit que le visage devient un peu plus blême parce qu'il sait pertinemment que ces éléments, il n'en dispose pas. Et donc, juste avant la deuxième audience, il trouve ce stratagème assez prodigieux, mais qui en dit assez long sur les techniques qui sont parfois prises par l'administration dans le cadre de l'état d'urgence, c'est qu'il décide d'avoir recours à son matériau qui est devenu son matériau favori, qui est celui de la note blanche. Et donc, production d'une nouvelle note blanche un peu une heure avant l'audience, et qui nous dit, alors là, on n'a même plus d'entête, hein. Tout à l'heure, je disais l'entête avec le nom de la personne et notre confidentiel. Là, vu qu'on fait les choses un peu dans la précipitation, on n'en est plus. Et donc, on lit la note blanche. Et donc, la première phrase, c'est les agents qui se trouvaient devant le domicile de ce responsable de Charlie Hebdo sont formels sur le fait que M. Halim Abdelmalek a pris des photographies. Et donc ça figure dans une note blanche, un paragraphe Word. Et les choses sont faites dans une telle précipitation que nous recevons cette note blanche dans un format Word. Ce n'est même pas un PDF, c'est un format Word. On reçoit le fichier format Word. Et il suffit, même sans avoir de grosses compétences en matière informatique, de faire un clic droit sur propriété du document, extraordinaire, génération 21e siècle, là, on est un peu compétent en matière administrative, et là vous voyez le nom des personnes qui ont rédigé le document, et vous voyez aussi le temps d'édition. Donc bon, quelques minutes auront suffi comme ça pour établir cette note blanche. Et donc lorsque on revient devant le magistrat pour cette deuxième audience, et qu'on leur dit, écoutez, je crois, enfin, bon, on dit au juge administratif, on se moque presque de vous. Là, autant on peut se moquer de nous parce qu'on est le simple requérant, etc. On est peut-être en plus des citoyens de seconde zone, mais ça, je laisse l'argumentation à d'autres, mais on se moque de vous. Parce que là, dans votre administration de la preuve, non seulement l'administration a la possibilité de préconstituer et d'auto-constituer ses preuves en produisant des notes blanches, mais en plus, elle le fait avec de simples affirmations péremptoires. Pardon si je suis trop long. Des affirmations péremptoires. Et donc là, il y a une difficulté. Et donc, en face, le ministère intérieur trouve ce stratagème qui est celui de la dispersion. Alors c'est un peu comme si j'avais en dessous de mon bureau un bouton qui permettait un écran de fumée. Et donc, en difficulté, le ministère intérieur nous répond « Oui, certes, enfin bon, maître, quelle est cette idée aujourd'hui de mettre en cause la sûreté de l'État en divulguant le nom des personnes qui ont rédigé cette note blanche et le fait que nous sommes passés par un document Word ? Moi, je crois que ce n'est absolument pas prudent de votre part. C'est lamentable de voir ça. Lamentable. Soit. C'est comme ça, en tout cas, que s'est déroulée cette audience. Et après cette audience, le juge est obligé d'ordonner un troisième complément d'information en disant produisez quand même d'autres éléments parce que si vous ne les avez pas, là clairement je vais... Alors, ça montre d'ailleurs ces trois compléments d'information, on était au début du contentieux de l'état d'urgence, que il avait beau le dossier, parce que quand on en parle maintenant, ça paraît manifeste, mais le fait que un magistrat du Conseil d'État ait décidé de trois compléments d'information, deux audiences, montre que le manifeste, il était après sa décision et non pas avant. Et puis on finit par avoir une nouvelle preuve, et cette nouvelle preuve, c'est les photographies de notre client à proximité donc de ce fameux domicile. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Bon, j'aurais pu ce soir vous les apporter, parce qu'en plus, on est jeudi soir, donc on est toujours un peu rire, plaisanter, en fin de semaine. Et on voit notre client être manifestement rapproché par un des policiers qui surveillait donc ce domicile, donc il prend même pas la peine de se dissimuler pour prendre sa photographie, c'est-à-dire qu'il avance et à quelques mètres, il prend son numéro, il prend son portable comme ça. Là, on imagine que vous voyez, il est en face de lui un islamiste radical, bon évidemment qui porte la barbe, et il s'approche à 2 mètres pour prendre la photographie, mais littéralement. Et sur la photo, on voit notre client qui ne prend pas absolument la fuite, mais qui fait ce nom de visage, donc comme ça. Et donc selon le ministère intérieur, c'était la démonstration qu'il était en train de prendre une photographie comme ça, train de dire non à cette personne. Donc, finalement, le Conseil d'État suspendra la mesure d'assignation à résidence, mais après quel combat ? Après quel combat ? Je serai un peu plus bref sur deux autres exemples de mesures qui sont des dérives manifestes. Il faudrait conclure. Deux exemples rapidement sur des dérives manifestes, avec notamment une personne à laquelle on reprochait d'avoir recruté des personnes dans son restaurant, qui appartenait à un mouvement islamiste radical. Et là aussi, même au djihadisme. Et là aussi, par rapport à ce qu'on a dit du caractère extrêmement large de l'association de malfaiteurs, vous vous retrouvez dans une zone grise, c'est-à-dire que c'est pas celle du droit pénal, mais ce serait celle du droit administratif. On dit finalement, bon, on n'est déjà pas très sûr du coup. Et puis, on produit un ensemble d'éléments qui sont notamment des photographies où on voit des militaires de l'opération Vigipirate et des policiers qui viennent prendre leur commande dans ce restaurant. Et alors c'est pour ça qu'on dit, c'est quand même assez curieux, c'est-à-dire que vous avez un haut lieu du recrutement des djihadistes dans lequel viennent prendre aussi leur commande des militaires de Vigipirate. Et à aucun moment l'administration se dit qu'il peut effectivement y avoir une curiosité. Mais ce que ça montre aussi, c'est qu'il peut y avoir une différence dans le niveau de renseignement, dans le niveau d'information dont disposent des autorités qui sont des autorités centralisées, donc le ministère intérieur, et des autorités décentralisées qui sont des autorités notamment préfectorales. Mais malheureusement, je n'aurai pas forcément le temps de rentrer dans le détail. Simplement, ma conclusion, puisque j'ai déjà été trop long, qui était aussi ma deuxième partie, c'est que, et qui était ce grand 2 sur la place des notes blanches dans le cadre du contentieux judiciaire, c'est que déjà que c'est difficile de contester les notes blanches devant le juge administratif, ça l'est encore davantage devant le juge judiciaire. Ça l'est encore davantage devant le juge judiciaire parce qu'on l'a vu tout à l'heure, la loi de 55 prévoit que la violation d'une assignation à résidence est constitutive d'une infraction pénale. Et ça va assez rapidement. Il suffit que vous arriviez en retard à votre pointage, que vous ayez rendez-vous chez le médecin et que vous n'ayez pas demandé votre sauf-conduit au ministère de l'Intérieur ou au préfet pour que ça vale immédiatement, et on l'a vu dans des dossiers, placement en garde à vue. Et peut-être que Raphaël en parlera tout à l'heure, ça concerne aussi la personne qui va travailler uniquement pour subvenir à ses moyens, et elle travaille, et là aussi on lui reproche une violation d'assignation à résidence. Dans les premiers temps de l'état d'urgence, ça concerne même des personnes qui avaient violé leur obligation de pointage pour pouvoir assister à leur propre audience devant le tribunal administratif. Ce qui veut dire que cette difficulté probatoire, elle se pose au regard de l'article 111-5 du Code pénal. Qu'est-ce que l'article 111-5 du Code pénal ? C'est l'exception d'illégalité. Parce que vous avez une juridiction qui se dit « Mais moi, maître, j'ai un acte administratif, il a été violé, donc je condamne. C'est tout. Monsieur, levez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous étiez là à votre pointage ou pas, hier matin ? Non ? Bon, mais c'est bon. Merci, vous pouvez vous rasseoir. On vous condamne. Et souvent, parfois, on vous condamne pour des durées, on va le voir, et qui pourraient même excéder, dans certains dossiers, la durée de l'état d'urgence. Quasiment automatique, cette peine d'emprisonnement ferme. Et donc, simplement, sur cette exception d'illégalité, c'est le seul moyen de réintroduire le débat qui porte sur la note blanche et sur l'acte administratif devant le juge judiciaire, en le saisissant de conclusions distinctes, donc avant même que le fond soit abordé, en disant que, certes, il y a peut-être une violation de l'assignation à résidence, mais c'est une violation d'une assignation qui est elle-même fondée sur un acte illégal. Donc le juge judiciaire est lui aussi confronté à cette difficulté, qui doit estimer la légalité de l'acte administratif. Et je conclurai mon propos qui a peut-être déjà été trop long en disant que il est encore moins familier de ce contentieux finalement de l'acte administratif que l'est le juge administratif du contentieux terroriste, si je puis dire. Donc c'est un peu une espèce de renvoi de balle, parce que lorsque notamment, enfin, Vous parlez d'une exception d'illégalité, alors déjà c'est assez rare, mais d'une illégalité au juge administratif, enfin au juge judiciaire. Il vous regarde un peu avec des yeux curieux, comme si vous étiez une sorte d'avatar et que vous veniez d'une planète étrange sur laquelle on fait du droit administratif ce qu'il se refuse bien souvent à faire. Excepté dans cette décision, raison sur laquelle je n'aurai pas le temps de revenir, du 3 mai 2017 qui concernait des perquisitions administratives, dans lequel la Cour de cassation a semblé affirmer par un attendu qu'il appartient au ministère public d'obtenir de l'autorité administrative les éléments qui viendraient soutenir la légalité de la décision administrative. Donc je conclurai simplement mon propos en vous disant que l'état d'urgence est un régime d'exception, et comme pour tout régime d'exception, bien finalement, il entraîne une série de conséquences qui sont elles-mêmes exceptionnelles, et notamment cette atteinte et ce renversement de la charge de la preuve avec l'émergence d'un droit de la preuve complètement dérogatoire, complètement hybride, complètement nouveau. Et on verra si, dans le cadre de l'application de la loi antiterroriste qui a été votée, qui entrera en application dans les prochaines semaines, si on s'en tiendra à l'application qui a été faite par les juridictions en cas de l'état d'urgence, ou si, et on peut l'espérer, mais malheureusement on a un peu la réponse, ou si ce sera toujours la même appréciation qui a été faite que pendant l'état d'urgence. Ce sera notre conclusion.